Chapitre 3. Monsieur de Lucan était depuis plusieurs mois le mari de Clotilde, quand le bruit se répandit dans le monde que Mademoiselle de Trécœur, cet ancien diable incarné, allait prendre le voile dans le couvent du faubourg Saint-Germain, où elle s'était retirée quelque temps avant le mariage de sa mère. Ce bruit était fondé. Julia avait d'abord subi avec peine la discipline et les observances auxquelles les simples pensionnaires de la communauté devaient elles-mêmes se soumettre. Puis elle avait été prise peu à peu d'une ferveur pieuse dont on était forcé de tempérer les excès. Elle avait supplié sa mère de ne pas mettre obstacle à la vocation irrésistible qu'elle se sentait pour la vie religieuse, et Clotilde avait difficilement obtenu qu'elle ajournât sa résolution jusqu'à l'accomplissement de sa 16e année. Les relations de Madame de Lucan avec sa fille depuis son mariage étaient d'une nature singulière. Elle venait à peu près chaque jour la visiter et recevait toujours de vifs témoignages d'affection. Mais sur deux points et les plus sensibles, la jeune fille était demeurée impitoyable. Elle n'avait jamais consenti ni à rentrer sous le toit maternel, ni à voir le mari de sa mère. Elle avait même été longtemps sans faire la moindre allusion à la situation nouvelle de Clotilde qu'elle affectait d'ignorer. Un jour enfin, sentant la gêne intolérable d'une telle réserve, elle prit son parti et, fixant sur sa mère son regard étincelant, « Eh bien, es-tu heureuse au moins ? » dit-elle. « Comment veux-tu, dit Clotilde, puisque tu es celui que j'aime ?» « Mais je ne hais personne, » reprit sèchement Julia. « Comment va-t-il, ton mari ?» Et dès ce moment, elle s'informa régulièrement de M. de Lucan sur un ton de politesse indifférente. Mais elle ne pensait jamais sans hésitation et sans un malaise évident le nom de l'homme qui tenait la place de son père. Cependant, elle venait d'avoir 16 ans. La promesse de sa mère avait été formelle. Julia était libre désormais de suivre sa vocation, et elle s'y préparait avec une ardeur impatiente qui édifiait la communauté. Madame de Lucan, exprimant un matin devant sa mère et son mari les angoisses qui lui serraient le cœur pendant ses derniers jours de sursis, « Pour moi, ma fille, dit la baronne, je t'avouerai que je presse de tous mes voeux le moment que tu redoutes. L'existence que tu mènes depuis ton mariage ne ressemble à rien d'humain. Mais ce qui en fait le principal supplice, c'est la lutte que tu soutiens contre l'obstination de cet enfant. Eh bien, quand elle sera religieuse, il n'y aura plus de lutte. Ce ne sera plus net au cœur, et remarque bien que vous ne serez pas en réalité plus séparés que vous ne l'êtes, puisque la maison n'est pas cloîtrée. » « Oh, j'aimerais autant qu'elle le fût, quant à moi. Mais enfin, elle ne l'est pas. Et puis pourquoi s'opposer à une vocation que je regarde véritablement comme providentielle ? Dans l'intérêt même de cet enfant, tu devrais te féliciter de la résolution qu'elle a prise. J'en appelle à ton mari. Voyons, je vous demande un peu, mon cher monsieur, ce qu'on pourrait attendre d'une organisation pareille si elle était une fois déchaînée dans le monde. Mais elle y ferait des ravages. » Vous savez quelle tête elle a, un volcan. Et notez bien, mon ami, que c'est une vraie odalisque à l'heure qu'il est. Oh, il y a longtemps que vous ne l'avez vue, vous n'imaginez pas comme elle s'est développée. Moi, qui m'en régale deux fois la semaine, je vous affirme que c'est une vraie odalisque, et avec cela, mise comme une déesse. Elle est bien faite, d'ailleurs, une fois rien. Vous lui jetteriez un rideau sur le corps avec une fourche, elle aurait l'air de sortir de chez Worth. Tenez, demandez à Pierre ce qu'il en pense, lui qui a l'honneur de ses bonnes grâces. » Monsieur de Moras, qui entrait au même instant, partageait en effet avec un très petit nombre d'amis de la famille le privilège d'accompagner quelquefois Clotilde au couvent de Julia. « Eh bien, mon bon Pierre, reprit la baronne, nous parlions de Julia, et je disais à ma fille, à mon gendre, qu'il était vraiment très heureux qu'elle voulût bien être une sainte, attendu qu'autrement elle mettrait Paris en combustion. « Parce que ?» demanda le comte. « Mais parce qu'elle est belle comme un péché. Mais sans doute, elle est très bien, dit le comte assez froidement. La baronne étant allée faire quelques courses avec Clotilde, M. de Maurras resta seul avec Lucan. Il me semble vraiment, lui dit-il, qu'on est bien dur pour cette pauvre Julia. Comment? Oui, sa grand-mère en parle comme d'une créature perverse. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche après tout? Son culte pour la mémoire de son père. Oh, il est excessif, soit, mais la pitié filiale, même exagérée, n'est pas un vice que je sache. Ses sentiments sont exaltés, mais qu'importe s'ils sont généreux? Est-ce une raison pour l'avouer aux dieux infernaux et la plonger dans les oubliettes? Mais vous êtes étrange, mon ami, je vous assure, dit Lucan. Qu'est-ce qui vous prend? À qui en avez-vous? Vous n'ignorez pas que Julia entre en religion de son plein gré, que sa mère en est désolée et qu'elle n'a rien épargné pour l'en détourner. Quant à moi, je n'ai aucune raison de l'aimer. Elle m'a causé, me cause encore de grands chagrins, mais vous savez assez que j'étais prêt à la recevoir comme ma fille, si elle eût dédaigné nous revenir. Oh, je n'accuse ni sa mère ni vous, bien entendu. C'est la baronne qui m'irrite. Elle est absurde, elle est dénaturée. Julia est sa petite fille, après tout, et elle jubile, jubile positivement à la pensée de la voir religieuse. Ma foi, je vous déclare, je suis tout près de jubiler aussi. La situation est trop pénible pour Clotilde. Il faut en finir, et comme je ne vois pas d'autre dénouement possible. Si, mais je vous demande pardon, il y en aurait un autre. Et lequel? Ben vous pourriez la marier? Bon, comme c'est vraisemblable, mais à qui? Le comte se rapprocha de Lucan, on le regarda en face, et souriant avec embarras, à moi, dit-il. Répétez, dit Lucan. Mon cher, reprit le comte, vous voyez que j'ai un peu de un pied de rouge sur les joues, ménagez-moi. Il y a longtemps que je vous ai abordé avec vous cette question délicate, mais le courage me manquait. Bon, puisque je l'ai enfin trouvé, ne me l'ôtez pas. Mon cher ami, dit Lucan, laissez-moi d'abord me remettre, car je tombe des nues. Comment? Vous êtes amoureux de Julia? Extraordinairement, mon ami. Non. Oh, il y a quelque chose là-dessous. Vous avez découvert ce moyen de la rapprocher de nous. Vous voulez vous sacrifier pour le repos de la famille. Oh, je vous jure que je ne songe pas du tout au repos de la famille. Je songe au mien, qui est fort troublé, car j'aime cet enfant avec une violence de sentiments que je ne connaissais pas. Si je ne l'épouse pas, je m'en consolerai de ma vie. À ce point-là, dit Lucan ébahi. Mon cher, c'est une chose terrible, reprit M. de Maurras. Je suis absolument épris. Quand elle me regarde, quand je touche sa main, quand sa robe me froisse, je sens courir des filtres dans mes veines. J'avais entendu parler de ces sortes d'agitations, mais jamais je ne les avais éprouvées. Je vous avoue qu'elles me ravissent. En même temps, elles me désespèrent, car je ne puis me dissimuler qu'il y a 1000 chances pour que cette passion soit malheureuse. Et il me semble vraiment que j'emporterai le deuil tant que mon cœur battra. Quelle aventure! Dit Lucan, qui avait repris toute sa gravité. C'est très sérieux, cela, très ennuyeux. Il fit quelques pas à travers le salon, absorbé dans les réflexions qui paraissaient d'une nature assez sombre. Julia, connaît-elle vos sentiments? Dit-il tout à coup. Oh, très certainement non. Je ne me serais pas permis de les lui apprendre sans vous prévenir. Voulez-vous me faire l'amitié d'être mon interprète auprès de sa mère? Mais oui, très volontiers, dit Lucas avec une nuance d'hésitation qui n'échappa point à son ami. Vous pensez que c'est inutile, n'est-ce pas? Dit le comte avec un sourire contraint. Inutile, non? Pourquoi? D'abord, il est bien tard. Il est un peu tard, sans doute. Julia est bien engagée, mais je me suis toujours un peu défié de sa vocation. D'ailleurs, dans ses imaginations tourmentées, Les résolutions les plus sincères de la veille deviennent aisément les dégoûts du lendemain. Mais vous doutez que je lui plaise. Pourquoi lui plairiez-vous pas? Vous êtes plus que bien de votre personne. Vous avez 32 ans, elle en a 16. Vous êtes un peu plus riche qu'elle. Tout cela va très bien. Enfin, pourquoi hésitez-vous à me servir? Oh, j'hésite point à vous servir, seulement je vous vois très amoureux. Vous n'en avez pas l'habitude et je crains qu'un état si nouveau pour vous ne vous pousse un peu vite à une détermination aussi grave que le mariage. Une femme n'est pas une maîtresse. Bref, avant de vous faire une démarche irrévocable, je voudrais vous prier de bien réfléchir encore. Mon ami, dit le comte, je ne veux pas, et je crois très sincèrement que je ne le peux pas. Vous connaissez mes idées. Les vraies passions, le dernier mot, et je ne me suis pas sûr que l'honneur même soit contre elle un argument très solide. Quant à leur opposer la raison, c'est une plaisanterie. D'ailleurs, voyons, Lucas, qu'y a-t-il de si déraisonnable dans le fait d'épouser une personne que j'aime? Je ne vois pas qu'il soit absolument nécessaire de ne pas aimer sa femme. Eh bien, alors, puis-je compter sur vous? Oh, complètement, dit Lucas en lui prenant la main. J'ai fait mes objections, maintenant je suis tout à vous. Je vais parler à Clotilde dans un moment. Elle doit aller voir sa fille cet après-midi. Venez dîner ce soir avec nous, mais rassemblez toute votre fermeté, car enfin, le succès est fort incertain. Il ne fut pas difficile à M. de Lucan de gagner la cause de M. de Maurras auprès de Clotilde. Après l'avoir écouté, non sans l'interrompre, plus d'une fois par exclamation de surprise, « Oh mon Dieu, reprit-elle, mais ce serait l'idéal ? Non seulement ce mariage romprait des projets qui me navrent, mais il réunit toutes les conditions de bonheur que je puis rêver pour ma fille. Et de plus, l'amitié qui vous lie avec Pierre amènerait tout naturellement quelques jours un rapprochement entre sa femme et vous. Tout cela serait trop heureux, mais comment espérer une révolution si complète et si soudaine dans les idées de Julia? Oh, elle ne me laissera même pas terminer mon message. » Elle partit, palpitante d'anxiété. Elle trouva Julia seule dans sa chambre, essayant devant une glace sa toilette de novice. La guimpe et le voile qui devaient cacher son opulente chevelure étaient posés sur le lit. Elle était simplement vêtue de la longue tunique de laine blanche dont elle s'occupait d'ajuster les plis. Elle rougit en voyant entrer sa mère, puis se mettant à rire. « Si modossé dans le cirque, n'est-ce pas, mère ?» Clotilde ne répondit pas. Elle avait joué les mains dans une attitude suppliante et pleurait en la regardant. Julia fut émue de cette douleur muette, deux larmes glissèrent de ses yeux, et elle sauta au cou de sa mère, puis, la faisant s'asseoir, « Que veux-tu ? Lui dit-elle. Moi aussi, j'ai un peu de chagrin au fond, car enfin j'aimais la vie. Mais par ma vocation, qui est très réelle, j'obéis à une véritable nécessité. Il n'y a plus d'autre existence possible pour moi que celle-là. Je sais bien, c'est ma faute, j'ai été un peu folle. J'aurais dû ne pas te quitter d'abord, ou du moins retourner chez toi tout de suite après ton mariage. » Maintenant, après des mois, des années même, est-ce possible, je te le demande? D'abord, je mourrais de confusion. Me vois-tu devant ton mari? Oh, quelle mine ferais-je? Puis il doit me détester. Le pli est pris, moi-même, qui sait, si en le revoyant dans cette maison. Enfin, de toute façon, je serai une gêne terrible entre vous. « Mais, ma chère fillette, dit Clotilde, personne ne te déteste. Tu serais reçue comme l'enfant prodigue, avec des transports. Si cela te coûte trop de rentrer chez moi, si tu crains d'y trouver ou d'y apporter des ennuis, oh Dieu sait combien tu t'abuses, mais si tu le crains pourtant, est-ce une raison pour t'ensevelir toute vivante et pour me briser le cœur? Ne pourrais-tu rentrer dans le monde sans rentrer chez moi et sans affronter tous ces embarras qui t'effraient? Il y aurait pour cela un moyen bien simple, tu sais. Quoi? Dit tranquillement Julia, me marier? Sans doute, dit Clotilde en secouant doucement la tête et en baissant la voix. Mais mon Dieu, ma mère, quelle apparence! Quand je le voudrais, oh, j'en suis loin, je ne connais personne, personne ne me connaît. S'il y a quelqu'un, reprit Clotilde avec une timidité croissante, quelqu'un que tu connais parfaitement et qui t'adore. Julia ouvrit de grands yeux étonnés et pensifs, et après une courte pause de réflexion, Pierre, dit-elle, oui? Murmura Clotilde, pâle d'angoisse. Les sourcils de Julia se contractèrent doucement. Elle dressa sa tête charmante et resta quelques secondes les yeux fixés sur le plafond. Puis, avec un léger mouvement d'épaule, pourquoi pas, dit-elle d'un ton sérieux, autant lui qu'un autre. Clotilde, laissant échapper un faible cri, saisit les deux bras et mains de sa fille. Tu veux, dit-elle, tu veux bien, c'est vrai? Tu me permets de lui porter cette réponse? Oui, mais change-en le texte, dit Julia en riant. Oh, ma chère, chère mignonne, s'écria Clotilde, qui couvrait de baisers les mains de Julia. Mais répète-moi encore que c'est bien vrai, que demain tu n'auras pas changé d'avis. Non, dit fermement Julia de sa voix grave et musicale. Elle médita un peu et reprit. Vraiment, il m'aime, ce grand garçon? Mais comme un fou, pauvre homme, et il attend la réponse, en tremblant. Eh bien, va le calmer. Nous reprendrons l'entretien demain. J'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans ma tête, tu comprends, après tout ce bouleversement. Mais non, sois tranquille, je suis décidé. Quand Madame de Lucas rentra chez elle, Pierre de Maurras l'attendait dans le salon. Il devint fort pâle en l'apercevant. Pierre, dit-elle tout haletante, embrassez-moi, vous êtes mon fils. Avec respect, s'il vous plaît, avec respect, ajouta-t-elle en riant pendant qu'il l'enlevait et la serrait sur sa poitrine. Il fit un peu plus tard la même fête à la baronne de Perse qui avait été mandée à la hâte. Mon ami, lui dit la baronne, je suis ravi, ravi. Oh, mais vous m'étouffez. Oui, c'est très bien, mon garçon. Oh, mais vous m'étouffez littéralement. Réservez-vous, mon ami, réservez-vous. Ah, cette chère petite, c'est gentil à elle, c'est très gentil. Au fond, c'est un cœur d'or. Et puis elle a bon goût aussi. Car vous êtes très beau, vous, mon cher, très beau, très beau. Au reste, je m'étais toujours douté qu'au moment de couper ses beaux cheveux, elle réfléchirait. Il est vrai qu'elle les a admirables, pauvre enfant. Et la baronne fondit en larmes, puis s'adressant au comte à travers ses sanglots. Oh, vous ne serez pas malheureux non plus, vous, par parenthèse, c'est une déesse. Monsieur de Lucan, quoique vivement touché de ce tableau de famille et surtout de la joie de Clotilde, prenait avec plus de sang-froid cet événement inespéré. Outre qu'il se montrait en général peu prodigue d'expansion publique, il était au fond de l'âme inquiet et triste. L'avenir de ce mariage lui semblait des plus incertains, et sa profonde amitié pour le comte s'en alarmait. Il n'avait pas osé lui dire, par un sentiment de délicate réserve à l'égard de Julia, tout ce qu'il pensait de ce caractère. Il essayait de repousser comme injuste et partiale l'opinion qu'il s'en était faite. Mais enfin, il se rappelait l'enfant terrible qu'il avait autrefois connu, tantôt emporté comme un ouragan, tantôt pensif et enfermé dans une réserve sombre. Il se l'imaginait telle qu'on la lui avait représentée depuis, grandie, belle, ascétique. Puis il la voyait tout à coup jetant ses voiles au vent, comme une des nonnes fantastiques de Robert, et rentrant dans le monde d'un pied léger. De toutes ces impressions diverses, il composait malgré lui une figure de chimère et de sphinx qu'il lui était très difficile d'allier à l'idée du bonheur domestique. On parla en famille pendant toute la soirée des complications que pouvait soulever ce projet de mariage et des moyens de les éviter. Monsieur de Lucan entra dans ces détails avec beaucoup de bonne grâce et déclara qu'il se prêterait de grand cœur pour sa part à tous les arrangements que sa belle-fille pourrait souhaiter. Cette précaution ne devait pas être inutile. Clotilde était au courant, au couvent le lendemain dès le matin. Julia, après avoir écouté avec une nonchalance un peu ironique le récit que lui fit sa mère des transports et de l'allégresse de son fiancé, prit un air plus sérieux. « Et ton mari, dit-elle, qu'est-ce qu'il en pense ? Il est charmé, comme nous tous. Je vais te faire une question singulière. Est-ce qu'il compte assister à notre mariage ? Comme tu voudras. Écoute, ma bonne petite mère, ne te désole pas d'avance. Je sens bien qu'un jour ou l'autre, ce mariage doit nous réunir tous, mais qu'on me laisse le temps de m'habituer à cette idée. Accordez-moi quelques mois pour faire oublier l'ancienne Julia et pour l'oublier moi-même. N'est-ce pas, dit, tu veux bien ? Tout ce qu'il te plaira, dit Clotilde en soupirant. Oh, je t'en prie. Dis-lui que je l'en prie aussi. Je le lui dirai, mais tu sais que Pierre est là ? Oh mon Dieu, où donc ? Ben, je l'ai laissé dans le jardin. Dans le jardin, mais quelle imprudence, ma mère ! Mais c'est d'un vol déchiré, comme Orphée, car tu peux croire qu'il n'est pas en odeur de sainteté ici. On envoya prévenir M. de Moras qui arriva en toute hâte. Julia se mit à rire quand il parut, ce qui facilita son entrée. Elle eut à plusieurs reprises, pendant leur entrevue, des accès de ce rire nerveux qui est si utile aux femmes dans les circonstances difficiles. Privé de cette ressource, M. de Moras se contenta de baiser timidement les belles mains de sa cousine et manqua d'ailleurs d'éloquence. Mais ses beaux traits mâles resplendissaient et ses grands yeux bleus étaient humides de tendresse heureuse. Il parut laisser une impression favorable. « Je ne l'avais jamais considéré à ce point de vue, » dit Julia à sa mère. « Oh, mais il est réellement très bien. C'est un mari superbe. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, sans aucun appareil et dans l'intimité. Le comte de Moras et sa jeune femme partirent le soir même pour l'Italie. M. de Lucan avait quitté Paris 2 ou 3 semaines auparavant et s'était installé au fond de la Normandie, dans une ancienne résidence de sa famille, où Clotilde s'empressa de le rejoindre, aussitôt après le départ de Julia. Vaste ville, domaine patrimonial de la famille de Lucan, est située à peu de distance de la mer sur la côte occidentale du Finistère normand. C'est un manoir à toits élevés et à balcon de fer ouvragé qui date du temps de Louis XIII et qui a remplacé l'ancien château dont quelques ruines servent encore à la décoration du parc. Il se cache dans un certain pli de terrain très ombragé et une longue avenue de vieux arbres le précède. L'aspect est singulièrement retiré et mélancolique à cause des bois épais qui l'enveloppent presque de tous les côtés. Ce massif boisé marque sur ce point de la presqu'île le dernier effort de la végétation normande. Dès qu'on en franchit la lisière, la vue s'étend tout à coup sans obstacle sur les vastes landes qui forment le plateau triangulaire du Cap de la Hague. Des champs de bruyères et d'ajoncs, des clôtures en pierre sans ciment, ça et là une croix de granit, à droite et à gauche, les ondulations lointaines de l'océan. Tel est le paysage sévère mais grandiose qui se développe tout à coup sous la pleine lumière du ciel. Monsieur de Lucan était né à Wattsville. Les poétiques souvenirs de l'enfance se mêlaient dans son imagination à la poésie naturelle de ce site et le lui rendaient cher. Il y venait chaque année en pèlerinage sous prétexte de chasse. Depuis son mariage seulement, il avait renoncé à cette habitude de cœur pour ne pas quitter Clotilde que sa fille retenait à Paris. Mais il était convenu qu'ils s'ensevelirait tous deux dans cette retraite pendant une saison dès qu'ils auraient recouvré toute liberté. Clotilde ne connaissait pas cette ville que par les descriptions d'enthousiasme de son mari. Elle l'aimait de confiance, et c'était d'avance pour elle un lieu enchanté. Cependant, lorsque la voiture qui l'amenait de la gare s'engagea à la tombée de la nuit entre les collines chargées de bois, dans la sombre avenue en pente qui conduisait au château, elle eut une impression de froid. « Mon Dieu, mon ami, dit-elle en riant, mais c'est le château d'Udolphe, votre château !» Lucan excusa son château comme il put, et protesta d'ailleurs qu'il était prêt à le quitter le lendemain s'il ne lui trouvait pas meilleure mine au lever du soleil. Elle ne tarda pas à l'adorer. Son bonheur, si contraint jusque-là, s'épanouit pour la première fois librement dans cette solitude, et la lui éclaira d'un jour charmant. Elle voulut même y passer l'hiver et y attendre Julia, qui devait rentrer en France dans le courant de l'année suivante. Lucan fit quelque opposition à ce projet qui lui semblait d'un héroïsme excessif pour une Parisienne, et finit pourtant par l'adopter, trop heureux lui-même d'encadrer dans ce lieu romanesque le roman de ses amours. Il s'ingénia d'ailleurs à atténuer ce que ce séjour pouvait avoir de trop austère, en ménageant à Clotilde quelques relations dans le voisinage, en lui procurant par intervalle la société de sa mère. Madame de Perse voulut bien se prêter à cette combinaison, quoique la campagne lui fût généralement répulsive, et que Wattsville en particulier eut à ses yeux un caractère sinistre. Elle prétendait y entendre des bruits dans les murailles et des gémissements nocturnes dans les bois. Elle n'y dormait que d'un œil avec deux bougies allumées. Les magnifiques falaises qui bordent la côte à peu de distance et qu'on essaie de lui faire admirer lui causaient une sensation pénible. « Très beau, disait-elle, très sauvage, oh, tout à fait sauvage, mais cela me fait mal, il me semble que je suis sur le haut des tours de Notre-Dame. Au surplus, mes enfants, l'amour embellit tout, et je comprends parfaitement vos transports. » Quant à moi, vous m'excuserez si je ne les partage pas. Jamais, non, je ne pourrais m'extasier devant ce paysage-ci. J'aime la campagne comme une autre. Mais ceci, ce n'est pas la campagne. C'est le désert, l'Arabie pétrée, je ne sais pas quoi. Et quant à votre château, mon ami, je suis fâché de vous le dire, c'est une maison à crime. Oh, cherchez bien, vous verrez qu'on y a tué quelqu'un. « Mais non, chère madame, disait Lucan en riant, je connais parfaitement l'histoire de ma famille, je puis vous garantir. »« Vous soyez sûr, mon ami, qu'on y a tué quelqu'un dans le temps. Vous savez comment je gênais peu autrefois pour tout ça. » Les lettres de Julia, sa mère, étaient fréquentes. C'était un vrai journal de voyage, rédigé à la diable, avec une saisissante originalité de style, et où la vivacité des impressions se corrigeait par cette nuance d'ironie hautaine qui était propre à l'auteur. Julia parlait assez brièvement de son mari, dont elle ne disait d'ailleurs que du bien. Il y avait le plus souvent un post-scriptum rapide et bienveillant adressé à M. de Lucan. M. de Moras était plus sobre de description. Il paraissait ne voir que sa femme en Italie. Il vantait sa beauté, encore accrue, disait-il, au contact de toutes ces merveilles d'art dont elle s'imprégnait. Il louait son goût extraordinaire, son intelligence et même son caractère. À cet égard, elle était extrêmement mûrie, et il la trouvait presque trop sage et trop grave pour son âge. Ces détails enchantaient Clotilde et achevaient de lui mettre dans le cœur une paix qu'elle n'avait jamais eue. Les lettres du comte n'étaient pas moins rassurantes pour l'avenir que pour le présent. Il ne croyait pas, disait-il, devoir presser Julia au sujet de sa réconciliation avec son beau-père, mais il y sentait disposé. Il y préparait, au reste, de plus en plus en l'entretenant habituellement de la vieille amitié qu'il unissait à M. de Lucan, de leur vie passée, de leur voyage, de leur péril partagé. Non seulement Julia écoutait ses récits sans révolte, mais souvent elle les provoquait, comme si elle eût regretté ses préventions et qu'elle eût cherché de bonnes raisons de les oublier. « Allô, Pylade, parlez-moi de reste, » lui disait-elle. Après avoir passé en Italie toute la saison d'hiver et une partie du printemps, M. et Mme de Moraz visitèrent la Suisse en annonçant l'intention d'y séjourner jusqu'au milieu de l'été. M. et Mme de Lucan eurent la pensée d'aller les rejoindre et brusquer ainsi un rapprochement qui ne paraissait plus être dès ce moment qu'une affaire de forme. Clotilde s'apprêtait à soumettre ce projet à sa fille quand elle reçut, par une belle matinée de mai, cette lettre datée de Paris. « Mère chérie, oh, plus de Suisse, trop de Suisse, me voilà. Ne te dérange pas, je sais combien tu te plais à Vasseville. Nous irons t'y trouver un de ces matins et nous reviendrons tous ensemble à l'automne. Je te demande seulement quelques jours pour préparer ici notre future installation. Nous sommes au grand hôtel, où je n'ai pas voulu descendre chez toi pour toutes sortes de raisons, et pas davantage chez ma grand-mère, qui me l'a offert toutefois très gracieusement. Ah, mon Dieu, mes chers enfants, mais c'est impossible, à l'hôtel, c'est pas convenable. Vous ne pouvez pas rester à l'hôtel, logez chez moi. Oh, mon Dieu, vous serez très mal, vous serez campés. Oh, je ne sais pas même comment je vous nourrirai, car ma cuisinière est dans son lit et mon imbécile de cocher qui a un loriot sur l'œil, par parenthèse. Aussi, on n'arrive pas comme ça. Vous me tombez là, comme deux pots de fleurs, mais c'est imaginable. Vous vous portez bien, d'ailleurs, mon ami. Je ne vous le demande pas, ça se voit de reste. Et toi, ma belle Minette ? Mais c'est un astre, un vrai astre. « Cache-toi, tu me fais mal aux yeux. Est-ce que vous avez des bagages ? Ah, enfin, que voulez-vous ? On les mettra dans le salon. Et pour vous, je vous donnerai ma chambre. Je prendrai une femme de ménage et un cocher de remise. Vous ne me gênerez pas du tout, du tout, du tout. » Bref, nous n'avons pas accepté. Mais l'explication de ce retour subi, oh, la voici. « Est-ce que la Suisse ne vous ennuie pas, mon ami ? » dis-je demandé à mon mari. « La Suisse m'ennuie, » m'a répondu cet écho fidèle. « Eh bien, allons-nous-en. » Et nous sommes partis. Contente et troublée jusqu'au fond de l'âme à la pensée de t'embrasser, Julia, post-scriptum, je prie M. de Lucan de ne pas m'intimider. Les jours qui suivirent furent délicieusement remplis pour Clotilde. Elle défaisait elle-même les caisses qui se succédaient sans interruption et en rangeait le contenu de ses mains maternelles. Elle le dépliait, elle repliait, elle caressait ses jupes, ses corsages, cette lingerie fine et parfumée, qui était déjà comme une partie, comme une douce émanation de la personne de sa fille. Lucas, un peu jaloux, la surprenait méditante avec amour sur ses jolies nippes. Elle allait aux écuries voir le cheval de Julia, qui avait suivi de près les caisses. Elle lui donnait du sucre et causait avec lui. Elle emplissait de fleurs et de branchages verts l'appartement destiné au jeune ménage. Cette heureuse fièvre eut bientôt son heureux terme. Environ 8 jours après son arrivée à Paris, Julia lui écrivit qu'elle et son mari comptaient partir le soir et qu'il serait le lendemain matin à Cherbourg. C'était la station la plus rapprochée de Vasseville. Clotilde se disposa naturellement à les aller prendre place avec sa voiture. Monsieur de Lucan, après en avoir conféré avec elle, ne crut pas devoir l'accompagner. Il craignit de gêner les premières expansions du retour, et ne voulant pas cependant que Julia pût interpréter son absence comme un manque d'empressement, il résolut d'aller à cheval au-devant des voyageurs. Chapitre 5. On était au premier jour de juin, et Clotilde partit de grand matin, fraîche et radieuse comme l'aube, et Lucas se mettait en marche 2 heures plus tard au petit pas de son cheval. Les routes normandes sont charmantes en cette saison. Les haies d'épines parfument la campagne et jettent çà et là sur les bords du chemin leur neige rosée. Une profusion de jeunes verdures constellées de fleurs sauvages couvre le revers des fossés. Tout cela, sous le gai soleil du matin, est une fête pour les yeux. Monsieur de Lucan n'accordait cependant contre sa coutume qu'une attention distraite au spectacle de cette souriante nature. Il se préoccupait à un degré qui l'étonnait lui-même de sa prochaine rencontre avec sa belle-fille. Julia avait été pour sa pensée une obsession si forte que sa pensée en avait gardé une empreinte exagérée. Il essayait en vain de lui rendre ses proportions véritables, qui n'étaient après tout que celles d'une enfant, autrefois enfant terrible et aujourd'hui enfant prodigue. Il s'était habitué à lui prêter dans son imagination une importance mystérieuse et une sorte de puissance fatale dont il avait peine à le dépouiller. Il riait, s'irritait de sa faiblesse. Mais il éprouvait une agitation mêlée de curiosité et de vague inquiétude au moment de voir en face ce sphinx dont l'ombre seule avait si longtemps troublé sa vie et qui venait maintenant s'asseoir en personne à son foyer. Une calèche découverte, pavoisée d'ombrelles, parut au haut d'une côte. Lucan vit une tête se pencher et un mouchoir s'agiter hors de la voiture. Il lança aussitôt son cheval au galop. Presque au même instant, la calèche s'arrêta et une jeune femme sauta lestement sur la route. Elle se retourna pour adresser quelques mots à ses compagnons de voyage. Il s'avança seul au-devant de Lucan. Ne voulant pas se laisser dépasser en procédé, il mit lui-même pied à terre, donna son cheval au domestique qui le suivait et se dirigea avec empressement vers la jeune femme, qui ne reconnaissait pas, mais qui était évidemment Julia. Elle venait à lui sans hâter le pas, d'une démarche glissante, balançant légèrement sa taille flexible. Tout en approchant, elle repoussa son voile d'un coup de main rapide, et Lucan put retrouver dans ce jeune visage, dans ses grands yeux un peu sombres, dans l'arc pur et allongé des sourcils, quelques traits de l'enfant qu'il avait connu. Quand le regard de Julia rencontra celui de Lucan, son teint pâle se couvrit de pourpre. Il la salua très bas avec un sourire d'une grâce affectueuse. « Welcome !» dit-il. « Merci, monsieur !» dit Julia d'une voix dont la sonorité grave et mélodieuse frappa Lucan. « Ami, n'est-ce pas ?» Et elle lui tendit ses deux mains avec une résolution charmante. Il la tira doucement pour l'embrasser, mais croyant sentir un peu de résistance dans les bras subitement raidis de la jeune femme, il se borna à lui baiser le poignet au défaut du gant. Puis, affectant de la regarder avec une admiration polie, qui d'ailleurs était sincère, « J'ai vraiment envie de vous demander, dit-il en riant, à qui j'ai l'honneur de parler. « Vous me trouvez grandi ? Dit-elle en montrant ses dents éblouissantes. « Étonnamment, dit Lucan, très étonnamment. Je comprends Pierre à merveille. « Pauvre Pierre, dit Julia, il vous aime bien. Allez, ne le faisons pas languir plus longtemps, si vous le voulez. » Ils se dirigèrent vers la calèche devant laquelle M. de Morras les attendait, et tout en marchant côte à côte, Quel joli pays, reprit Julien. Et la mer tout près. Oui, tout près. Nous ferons une promenade à cheval après déjeuner, n'est-ce pas? Très volontiers, mais vous devez être horriblement fatiguée, ma chère enfant. Pardon, ma chère. En fait, comment voulez-vous que je vous appelle? Oh, appelez-moi madame. J'ai été si mauvais enfant. Elle eut un accès de ce rire soudain, gracieux mais un peu équivoque, qui lui était familier. Puis, élevant la voix, vous pouvez venir, Pierre, votre ami est mon ami. Elle laissa les hommes échanger de cordiales poignées de main, s'élança dans la voiture et reprenant sa place auprès de sa mère. Ma mère, dit-elle en l'embrassant, cela s'est très bien passé, n'est-ce pas, monsieur de Lucan? Très bien, dit Lucan en riant, sauf quelques détails. Oh, trop difficile, monsieur, dit Julia en se drapant dans ses fourrures. L'instant d'après, monsieur de Lucan galopait à côté de la portière, pendant que les trois voyageurs de la calèche se livraient à une de ces causeries expansives qui suivent les crises heureusement dénouées. Clotilde, désormais en possession de tous ses amours, nageait dans le ciel bleu. Vous êtes trop jolie, ma mère, lui dit Julia. Avec une grande fille comme moi, c'est coupable. Et elle l'embrassait. Lucan, tout en prenant part à l'entretien et en faisant à Julia les honneurs du paysage, essayait de résumer, un par lui, ses impressions sur la cérémonie qui venait de s'accomplir. En somme, il pensait, comme sa belle-fille, que cela s'était bien passé, quoique la perfection n'y fût pas. La perfection eût été de trouver en Julia une femme toute simple, qui se fût jetée bonnement au cou de son beau-père en riant avec lui de son escapade d'enfant gâté. Mais il n'avait jamais attendu de Julia des allures aussi rondes. Elle avait été dans cette circonstance tout ce qu'on pouvait attendre d'un naturel comme le sien. Elle s'était montrée gracieusement amicale. Elle avait, il est vrai, donné à cette première entrevue un certain tour dramatique et solennel. Elle était romanesque et, comme Lucan l'était lui-même passablement, cette bizarrerie ne lui avait pas déplu. Il avait été au reste agréablement surpris de la beauté de Madame de Maurras, qui était en effet saisissante. La pureté sévère de ses traits, l'éclat profond de son regard bleu frangé de longs cils noirs, l'exquise harmonie de ses formes, n'étaient pas ses seules ni même ses principales séductions. Elle devait son attrait rare et personnel à une sorte de grâce étrange, mêlée de souplesse et de force, qui enchantait ses moindres mouvements. Elle avait dans ses jeux de physionomie, dans sa démarche, dans ses gestes, l'aisance souveraine d'une femme qui ne se sent pas un seul point faible dans sa beauté et qui se meut, se développe et s'épanouit avec toute la liberté d'un enfant dans son berceau ou d'un fauve dans les bois. Faite comme elle l'était, elle n'avait pas de peine à se mettre. Les plus simples toilettes s'ajustaient sur sa personne avec une précision élégante qui faisait dire à la baronne de Perse, dans son langage inexact mais expressive, on l'habillerait avec un gant de Suède. Dans la même journée et dans les jours qui suivirent, Julia s'assura de nouveaux titres aux bonnes grâces de monsieur de Lucan, en se prenant d'un goût vif pour le château de Vasseville et pour les sites environnants. Le château lui plut par son style romantique, son jardin à la vieille mode orné de charmilles et d'ifs taillés, les allées solitaires du parc et ses bois mélancoliques semés de ruines. Elle eut des extases devant les grandes plaines de bruyères fouettées par les vents de l'océan, les arbres aux cimes tordues et convulsives, les hautes falaises de granit creusées par les vagues éternelles. Tout cela, disait-elle en riant, avait beaucoup de caractère, et comme elle en avait beaucoup aussi, elle se sentait dans son élément. Elle avait trouvé sa patrie, elle était heureuse. Sa mère, à qui elle payait en effusion passionnée toute son arriérée de tendresse, oh, l'était encore davantage. La plupart des journées se passaient en cavalcade. Après le dîner, Julia, dans cette humeur joyeuse et un peu fiévreuse qui l'animait, racontait ses voyages en parodiant d'une manière plaisante ses exaltations et la froideur relative de son mari devant les chefs-d'œuvre de l'art antique. Elle illustrait ses souvenirs par des scènes de mimique où elle déployait une adresse de fée, une verve d'artiste et parfois une drôlerie de rapin. En un tour de main, avec une fleur, un chiffon, une feuille de papier, elle se faisait une coiffure napolitaine, romaine, sicilienne. Elle jouait des scènes de ballet ou d'opéra en repoussant la queue de sa robe d'un coup de pied tragique et en accentuant fortement des exclamations banales du lyrisme italien. « Oh, ciel, crudel, perfido, oh Dio, perdona !» Puis, s'agenouillant sur un fauteuil, elle imitait la voix et les gestes d'un prédicateur qu'elle avait entendu à Rome et qui ne paraissait pas l'avoir suffisamment édifié. Dans toutes ses attitudes diverses, elle ne perdait pas un atome de sa grâce et ses poses les plus comiques gardaient de l'élégance. À la suite de ses folies, elle reprenait son air de reine ennuyée. Sous le charme du mouvement et des prestiges de cette brillante nature, M. de Lucan pardonnait volontiers à Julia les caprices et les singularités dont elle était prodigue, surtout à l'égard de son beau-père. Elle se montrait en général avec lui ce qu'elle avait été dès le début, amicale et polie, avec une nuance d'ironie altière, mais elle avait de fortes inégalités. Lucas surprenait parfois son regard attaché sur lui avec une expression pénible et comme farouche. Un jour, elle repoussait avec un brusque maussaderie la main qu'il lui offrait pour l'aider à descendre de cheval ou à escalader une barrière. Elle semblait fuir les occasions de se trouver seule avec lui, et quand elle ne pouvait échapper à quelques moments de tête à tête, elle laissait voir tantôt un malaise irrité, tantôt une impertinence railleuse. Lucan pensait qu'elle se reprochait parfois de trop démentir ses anciens sentiments et qu'elle croyait se devoir à elle-même de leur donner de temps à autre un gage de fidélité. Il lui savait gré au surplus de réserver pour lui seul ses signes équivoques et de n'en pas troubler sa mère. En somme, il n'attachait à ses symptômes qu'une faible importance. S'il y avait encore dans les dispositions affectueuses de sa belle-fille un peu de lutte et d'effort, c'était de la part de ce caractère hautain très excusable, une dernière défense qui se flattait de faire bientôt disparaître en redoublant de délicates attentions. 2 semaines environ après l'arrivée de Julia, il y eut un bal chez la marquise de Boisfresnay, en son château de Boisfresnay qui est situé à 2 ou 3 lieues de Vasseville. Monsieur et Madame de Lucan entretenaient des relations de voisinage avec la marquise. Ils allèrent à ce bal avec Julia et son mari, les hommes dans le coupé, les 2 femmes à cause de leur toilette, seules dans la calèche. Vers minuit, Clotilde prit son mari à part et lui montrant sa fille qui valsait dans le salon voisin avec un officier de marine. Chut, mon ami, dit-elle. « Oh, j'ai une migraine affreuse et Pierre s'ennuie à mourir. Mais nous n'avons pas le courage d'emmener Julia de si bonne heure. Vouliez-vous être assez aimable? Vous la ramènerez et nous allons partir, Pierre et moi. Nous vous laisserons la calèche. »« Très bien, ma chère, dit Lucan. Sauvez-vous. » Clotilde et M. de Moras s'esquivèrent aussitôt. Un instant plus tard, Julia, fendant dédaigneusement la foule qui s'écartait devant elle comme devant un ange de lumière, souleva son front superbe et fit un signe à Lucan. « Je ne vois plus ma mère, lui dit-elle. Lucan l'informa en deux mots de la combinaison qui venait d'être arrêtée. Un éclair soudain jaillit des yeux de la jeune femme. Ses sourcils se plissèrent. Elle haussa légèrement les épaules sans répondre et rentra dans le bal en se frayant passage avec la même insolence tranquille. Elle s'abandonna de nouveau aux bras d'un officier de marine et parut prendre plaisir à tourbillonner dans sa splendeur. Sa toilette de bal donnait en effet à sa beauté un étrange éclat. Son sein et ses épaules, sortant de son corsage avec une sorte d'insouciance chaste, gardaient dans l'animation de la danse la pureté froide et lustrée du marbre. Lucan lui proposa de valser avec elle. Elle hésita, mais ayant consulté sa mémoire, elle découvrit qu'elle n'avait pas encore épuisé la liste des officiers de marine qui s'étaient précipités par escadre sur cette riche proie. Au bout d'une heure, elle se lassa d'être admirée et demanda la voiture. Comme elle s'enveloppait de ses draperies dans le vestibule, son beau-père lui offrit ses services. « Oh non, non, je vous en prie, » dit-elle avec impatience. « Les hommes ne savent pas, oh, oh, pas du tout. » Puis elle se jeta dans la voiture d'un air ennuyé, et cependant, comme les chevaux se mettaient en marche, « Fumez, monsieur, » reprit-elle avec plus de bonne grâce. Lucan la remercia de la permission sans en profiter. Puis tout en faisant ses petits arrangements de voisinage, « Vous étiez bien belle ce soir, ma chère enfant, » lui dit-il. « Monsieur, » dit Julia d'un air nonchalant, mais affirmatif, « je vous défends de me trouver belle, je vous défends de m'appeler ma chère enfant. »« Soit, » dit Lucan, « eh bien, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas chère et vous n'êtes pas une enfant. »« Pour enfant, non, » dit-elle énergiquement. Elle s'encapuchonna de son voile, croisa les bras sur son sein et s'accommoda dans son coin où des clartés de lune venaient de temps à autre se jouer dans ses blancheurs. « Peut-on dormir ?» demanda-t-elle. « Comment donc, très certainement. Voulez-vous que je ferme la glace ?»« S'il vous plaît, mes fleurs ne vous feront pas mal ?»« Oh non, pas du tout. » Après un silence. « Monsieur de Lucan, » reprit Julia. « Chère madame, expliquez-moi donc les usages, car il y a des choses que je ne comprends pas très bien. » Est-ce qu'il est admis, enfin, est-ce qu'il est convenable qu'on laisse revenir du bal en tête à tête à 2 heures du matin une femme de mon âge et un monsieur du vôtre ? Mais, dit Lucan, non sans une certaine gravité, je ne suis pas un monsieur, je suis le mari de votre mère. Ah oui, sans doute, vous êtes le mari de ma mère. Dit-elle en scandant ces mots d'une voix vibrante qui fit craindre à Lucan quelque explosion. Mais, paraissant dominer une violente émotion, elle poursuivit d'un ton presque enjoué. « Oui, vous êtes le mari de ma mère, et vous êtes même, suivant moi, un très mauvais mari pour ma mère. »« Suivant vous, » dit tranquillement Lucan, « et pourquoi cela ?»« Parce que vous ne lui convenez pas du tout. » « Avez-vous consulté votre mère à ce sujet, ma chère dame ? Il me semble qu'elle est en meilleur juge que vous. »« Ouf, je n'ai pas besoin de la consulter. Il n'y a qu'à vous voir tous les deux. Ma mère est une créature angélique, et vous non. Alors qu'est-ce que je suis donc ? Un romanesque, un tourmenté, ou tout le contraire, enfin, un jour ou l'autre, vous la taillerez. » « Jamais !» dit Lucan avec un peu de sévérité. « En êtes-vous bien sûr, monsieur ?» dit Julia en dirigeant son regard sur lui du fond de son capuchon. « Chère madame, » répondit monsieur de Lucan, « vous me demandiez tout à l'heure de vouloir bien vous apprendre ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Eh bien, il n'est pas convenable que nous prenions, vous, votre mère et moi, ma femme, pour texte d'une plaisanterie de ce genre, et par conséquent, il est convenable de nous taire. » Elle se tut, resta immobile et ferma les yeux. Après un moment, Lucan vit une larme se détacher de ses longs cils et glisser sur sa joue. « Mon Dieu, mon enfant, dit-il, je vous ai blessé. Je vous fais sincèrement mes excuses. » « Gardez vos excuses, dit-elle d'une voix sourde, en ouvrant brusquement ses grands yeux. Je ne veux pas plus de vos excuses que de vos leçons. Vos leçons, mais comment en ai-je mérité l'humiliation ? Je ne comprends pas. Quoi de plus innocent que mes paroles, et que voulez-vous donc que je vous dise ? Est-ce ma faute si je suis là, seul avec vous, si je suis obligé de vous parler, si je ne sais pas quoi vous dire ? Comment m'expose-t-on à cela ? Pourquoi m'en demander plus que je n'en puis faire ? On présume trop de mes forces. C'est assez, c'est mille fois trop déjà de la comédie que je joue chaque jour. Oh, Dieu sait si j'en suis lasse. » Lucan eut peine à surmonter l'étonnement douloureux qu'il avait saisi. « Julia, dit-il enfin, vous avez bien voulu me dire que nous étions amis, je le croyais. Ce n'est donc pas vrai. » « Non. » Après avoir lancé ce mot avec une sombre énergie, elle s'enveloppa la tête et le visage dans ses voiles et demeura pendant le reste du chemin plongée dans un silence que M. de Lucan ne troubla pas.